Bonjour mes frères et mes sœurs, bonjour mes amis, que Jésus vous bénisse. Jésus est vivant. Prenez le temps de vous recueillir, de lui parler, de livrer votre cœur à votre bon maître, le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour vous sur la croix, qui est vivant au siècle des siècles, et qui a dit qu'il avait tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc il a un très grand pouvoir, et il peut conduire vos vies dans toute la mesure où vous la donnez. Et souvent, c'est dans tous les petits détails qu'on voit qu'on a besoin du Seigneur, comme dans les grandes affaires importantes. Donc on faisait savoir hier que quelqu'un avait la méningite, qu'il fallait prier pour lui, c'est une affaire extrêmement importante. C'est sûr, ou quelqu'un qui a le coronavirus, c'est très très important, et là, il faut vraiment demander au Seigneur, à plusieurs, son intervention puissante. Mais il y a plein de petits détails sur lesquels nous pouvons nous pencher et les présenter à Dieu. Voilà. Peut-être que tout à l'heure, j'en parlerai un petit peu. J'ai parlé hier du don des langues dans les assemblées où on met en valeur le don des langues. Je voudrais commencer par un témoignage. Il y a plusieurs années, de nombreuses années, avant que mon épouse, les enfants et moi-même nous soyons évangéliques au sens propre, alors que nous étions encore catholiques mais sur la touche, marginaux, moi, ancien prêtre, marié à une femme qui s'était fortement culpabilisée parce que, à ses yeux, elle était d'origine très catholique. Elle avait déproqué un curé. C'est comme ça qu'elle le vivait mal. Mais tout cela, bon, c'est du passé. C'est du passé. Nous avons vécu de grandes souffrances. Nous n'avions pas que des amis dans le village parce qu'ils nous considéraient comme des renégats, des apostats. Et en même temps, on recevait énormément de personnes avec qui on partageait le gîte, la nourriture, etc. On avait un cœur très ouvert, aimant pour beaucoup de personnes. Mais voilà, dans nos amis catholiques, il y en a un qui nous dit « Il y a une réunion où il y a des protestants, des évangéliques, des orthodoxes, des catholiques, vous devriez y aller. » Et je réponds « Nous n'avons pas d'argent. » On ne peut pas y aller, ça coûte trop cher avec une famille nombreuse. Je paierai la moitié, puis le reste, on verra bien. Et effectivement, ce brave ami a payé le séjour pendant une semaine dans un très grand bâtiment scolaire désaffecté qui servait à des réunions de jeunes en pleine nature. Et là, nous avons logé et pour la première fois, nous sommes tombés sur des martiens, c'est-à-dire nous avons rencontré des familles évangéliques et des jeunes pasteurs avec leur épouse et leurs enfants. Nous avons découvert un monde qui nous est totalement inconnu, un monde de famille, de couple et même de célibataires très ouvert. Et il y avait 600 personnes. Le bâtiment était très grand et pouvait loger énormément de personnes. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que
on leur a rien demandé.
Non, non, mademoiselle peut-être peut revenir.
Bénédicte, voici quelques résultats du web. Tu avais dit OK?
Je ne peux pas savoir.
Tu dois essayer de ne pas dire OK.
Je vous remercie de votre patience parce que tout s'était coupé. Donc nous avons passé une semaine remarquable parce que nous l'avons partagée avec énormément de chrétiens évangéliques. Nous ne connaissions pas cette race de chrétiens. Et un enseignement a été donné le matin par un prêtre, un jésuite. Il donnait un enseignement biblique, mais purement très fidèle à la parole de Dieu. un homme extrêmement attaché à Christ. Et l'après-midi, c'était un pasteur de Suisse, pasteur Glardon, qui donnait des enseignements. Et ils enchaînaient les enseignements l'un après l'autre d'une manière remarquable. C'était d'une très grande nourriture biblique. Le premier événement qui s'est passé, c'est que quand j'ai entendu le nom du prêtre, de ce monsieur qui avait été missionnaire en Afrique, j'ai dit à mon épouse, écoute, quand ta maman était enceinte de toi, le docteur voulait qu'elle l'avorte, parce qu'il y avait déjà eu 4 césariennes, 4 garçons, et tu es le 5e enfant. Et la vie de ta maman était en risque, était très en péril avec ce 5e enfant. Et le docteur avait dit d'avorter. Et quand ce missionnaire est passé, il a dit, non, Dieu vous a donné un enfant, gardez-le, vous viendrez à Bruxelles, chez mes frères qui sont médecins, vous logerez là 3 mois avant, et puis vous resterez encore 3 mois après. Et donc, comme des faits, 6 mois après, Madame Laurent est revenue avec une petite fille dans les bras, en Afrique, tout près des 4 garçons, et tout près de Monsieur Laurent. Eh bien, lorsque j'ai entendu ce prêtre prêcher la parole de Dieu avec une très grande rigueur, une beauté remarquable dans ses expressions profondes, j'ai dit à ma femme, c'est un avertissement que j'avais intérieurement, va voir ce prêtre, c'est lui qui t'a sauvé la vie. Et donc elle est allée le voir, et effectivement c'était cet homme qui avait parlé aux parents, qui avait dit de garder l'enfant. Alors nous avons eu un contact tout à fait simple, mais vrai et profond avec cet homme. Cet homme qui aimait vraiment Dieu et qui respectait le don de la vie. Bon, par la suite, un autre événement, c'est que quand les enseignements étaient finis, il y avait des promenades, mais après, fin de journée, il y avait des groupes de 20, 25 personnes, 18 personnes, énormément de groupes, évidemment, sur 600, il faut faire beaucoup de groupes, 30, 40 groupes. Et nous avions dans notre groupe quelqu'un, un jeune pasteur, qui portait le nom de Dieu, Jim Dieu, et qui écoutait tout le monde et tout, on échangeait, et puis il vient me trouver après, il me dit, mais vous n'avez rien à demander à Dieu. Et je dis, mais j'ai tellement de choses à demander à Dieu que je ne sais pas laquelle. Et dans 3-4 jours, il y a une imposition des mains, je vous prie, je pense que ce serait nécessaire pour vous. Vous savez très bien que moi j'étais rébarbatif à l'imposition des mains. Et que je n'avais pas du tout confiance dans ces choses. Et donc, pendant les jours qui ont suivi, j'ai écouté les enseignements. Puis, ce jour-là, je suis allé dans la salle, j'ai été me laver, sérieusement. Je me suis assis à côté de Marie-Hélène et des enfants. Et le pasteur qui prêchait a parlé de l'imposition des mains d'une manière très calme, très biblique, sans excès. Et à un moment donné, l'imposition des mains est venue. Après de nombreux chants et des prières, mais aucun excès, il y avait du calme, un calme très sérieux. Et ceux qui se sont levés avançaient dans leur recueillement et personne ne les dévisageait. Personne n'épluchait ce pourquoi ils avançaient. Et personne ne s'intéressait à la façon dont les positions des mains étaient faites. C'était vraiment un esprit de recueillement et de prière. Et donc on s'est regardé tous les deux, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on va demander à Dieu? Et alors tous les deux ont dit en même temps le chemin. Donc nous allons là-bas et le pasteur met ses mains sur la tête, ça n'a pas duré longtemps. Le Seigneur vous a tracé le chemin, marchez par ses forces et plus par vos forces personnelles. Et puis on s'en va. Et vous me direz, je ne suis pas pentecôtiste ni charismatique, mais en tout cas les événements qui se sont passés cette semaine étaient exceptionnels et ont été marquants pour notre vie. Nous l'avons très rarement partagé avec des chrétiens baptistes évangéliques parce qu'il y a une très grande méfiance devant des propos pareils. Mais je suis amené à le dire aujourd'hui, il n'y a pas que des mauvaises choses chez ceux qui ne nous ressemblent pas. Et donc, je suis retourné à ma place, Marie-Hélène aussi, et j'avais très mal le bras gauche, mais d'une manière énorme. Et je me suis dit, je vais faire un infarctus, je suis émotionné, trop touché, je n'irai plus jamais à ces trucs-là, d'ailleurs si ça continue, je vais sortir. Et ce qui s'est passé, il y a eu des chants comme il y en a dans notre assemblée évangélique, très beaux, très profonds, etc. Et une personne s'est levée, quand les chants se sont arrêtés, a dit « Je vois quelqu'un là-bas au fond de la salle qui a mal, très fort au bras gauche, et moi je lui dis qu'il ne doit plus écouter cette voix qui parle à sa conscience, qui lui dit « Va de l'avant, va de l'avant ». Il ne doit plus marcher en écoutant cette voix. C'est le malin qui veut diriger son esprit. Il faut absolument qu'il n'écoute plus cela. La personne se rassied et moi, tout instantanément, j'ai plus mal au bras gauche. Dans les minutes qui ont suivi, je me suis dit, c'est un tel à côté, à droite, à gauche, c'est bien celui-là, etc. Je me débinais et je ne voulais pas consentir au fait que ça pouvait être moi. Et donc, la réunion de prière a continué, et j'ai dit à ma femme, écoute, je vais mettre toutes les valises dans la voiture, et nous allons repartir. C'est un peu fort le café, déjà, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu. Et donc, je recule la voiture tout près de la porte, parce qu'il y avait énormément de monde, donc, si je partais le premier, je n'étais pas dans l'embouteillage, et je gagnais du temps. Et donc, dans mon calcul intéressé, j'évitais de me questionner sur d'autres choses. Donc, je mets tout dans le coffre, toutes les valises, et puis j'avais les mains levées vers le ciel, je tenais le capot arrière de la voiture pour le refermer. Quand à ce moment-là, un coup de vent est passé, et j'ai vu des arbres d'un mètre vingt de diamètre, des gros arbres, des épicéas, qui faisaient de 25 à 40 mètres. C'était des arbres énormes, tout le long de l'allée. Au moins la moitié était brisée à un mètre de hauteur. Un seul coup de vent. J'ai pensé immédiatement au vent qui arrachait la montagne avec Élie. Je ne me prends pas pour Élie, évidemment. Croyez bien, je ne me monte pas la tête de bourrichon avec des histoires pareilles. C'est Élie, c'est pas moi. Et pratiquement, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu ne veux pas que je parte. Il faut que j'aille demander des comptes et des conseils. Et donc, je suis retourné tout près de mon épouse, et mon épouse a dit, on part ? Non, on ne part pas, on ne peut pas. Comment ça, on ne peut pas ? Dieu ne veut pas. Alors, je dis, tu iras voir dehors, quand ça sera fini, quand la réunion de prière sera finie, tu iras voir dehors, tu comprendras. La route est barrée par 20, 30 arbres énormes, et il y a des voitures de cassées. Et donc, pendant qu'elle va voir, moi j'étais en demeure, évidemment, de faire ce que le Seigneur m'avait mis dans la tête, va demander conseil. Et arrête de penser par toi-même et de tout vouloir par toi-même et d'être chrétien par toi-même, tout seul. Donc j'ai été voir pour commencer ce jeune pasteur qui avait 35 ans, 36 ans. Et je lui ai dit, pasteur, voilà ce qui s'est produit avec les arbres et tout, je lui explique. Et puis voilà, comment vais-je dire, après l'imposition de main, ce qui m'est arrivé, j'avais mal au bras, quelqu'un s'est levé. Alors il m'a dit, Jean, je vais te dire une chose. Satan peut décourager les chrétiens. En général, il les attrape par la ceinture derrière, il fait tomber sur le derrière, ils restent assis tout le reste de leur vie, ils ne font plus rien pour Dieu. Et puis d'autres, Satan n'arrive pas à les décourager, ils sont toujours debout, ils veulent toujours courir, alors ils les poussent dans le dos. Et ils finissent par tomber sur la figure et se casser les dents. Et c'est ton cas, qu'il me dit. Maintenant, il va falloir que tu marches derrière le Seigneur. Jésus a dit, viens et suis-moi. Il ne t'a pas dit, je te suis, Jean. Et donc, je l'ai remercié, et je me suis dit dans ma petite tête, c'est un protestant, c'est un évangélique, il faut quand même bien que j'aille voir un catholique, moi, je ne sais pas, moi. Ils sont peut-être en train de vouloir me mener par le bout du nez. Et donc, je suis allé voir ce missionnaire à la retraite qui avait sauvé la vie à Marie-Hélène, hein, 35 ans avant, elle avait son anniversaire à ce moment-là, 35 ans avant, et donc au Congo, belge, et je lui pose la question, Le monsieur qui s'est levé, qui a dit « Je vois quelqu'un là-bas qui souffre du bras gauche et je lui dis qu'il ne doit plus écouter la voix, va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant, parce que c'est Satan. » Je dis « Marc, il s'agit de qui ?» Il me répond « C'est pour toi, Jean. » Quand j'ai entendu cet homme-là, j'ai pensé, tu avais été à l'imposition des mains, je t'ai regardé, j'ai pensé que c'était toi. Ah. Et qu'est-ce que je dois faire? Mais tu dois marcher derrière le Seigneur, tu ne dois plus marcher par tes forces. Alors, comprenez bien, la vérité qui m'était dite n'était ni d'un protestant, ni d'un catholique. Elle venait de Dieu. En plus des arbres, brisés comme des allumettes, des arbres, vous jetez un semi-remorque, un camion dessus, et le camion est cassé, mais pas l'arbre. Et je vous garantis que c'était quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie. Un seul coup de vent. Et j'ai pensé que cette montagne, toute montagne pouvait être cassée par le vent, comme dans le récit d'Élie, alors au Sinaï. Et j'ai dit à ce prêtre, et le monsieur qui s'est levé là, qui a dit ça, qui a dit « Je vois au fond un monsieur qui a mal au bras gauche. » Qu'est-ce qu'il en est ? Ben, cet homme a travaillé comme enseignant toute sa vie et s'est engagé à servir le Seigneur au sud de la France. Et il est chrétien, évangélique, et il sert le Seigneur et il a choisi avec sa femme de vendre sa maison et de servir tout le monde. Et donc, ça lui arrive une fois ou l'autre, c'est pas à chaque fois, de faire une prophétie. Mais il n'en cherche aucune gloire, aucun orgueil. Et ils disent que le Seigneur le pousse à dire. Et je dis, est-ce que je dois aller le voir ? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas nécessaire que tu ailles le voir. Je viens t'expliquer. Mais moi, dans ma tête, qui est super dure, je dis, je vais le voir. Je remercie ce prêtre, Marc. Ah oui, ce prêtre me dit... Jean, je dois te dire, je suis conscient que le Seigneur Jésus t'appelle à le servir. Tu as déjà abandonné une fois de le servir. Cette fois-ci, c'est la deuxième fois. Cette fois-ci, ne fais plus ça. Suis-le, sois fidèle jusqu'au bout. Mais comment je peux le servir? L'Église catholique ne veut plus de moi. Elle ne veut pas des prêtres qui se sont mariés, qui ont des enfants, et qui sont rebelles aux autorités, qui ne se laissent pas conduire comme des petits moutons. Dit, ce n'est pas grave. Je sais que demain matin, tu sers le Seigneur et je ne sais pas avec qui et comment. Mais c'est une chose, je suis certain que tu sers le Seigneur demain matin, tu commences. Donc je vais voir, après tout ça, je le remercie, je vais voir, je trouve ce monsieur qui s'était levé, qui avait prophétisé, c'est un mot que je ne suis pas très habitué à utiliser pour des cas pareils, mais enfin, je vous relate ce qui m'est arrivé. Et je vais le voir. Et après un certain temps, j'attends, il parle avec d'autres, et puis je dis, monsieur, vous vous êtes levé, vous avez dit telle et telle parole, et c'était pour qui? Ben, je pense, il me regardait, je pense, il est venu une dame, c'est pas pour une dame, c'est pour un monsieur. Et puis il me dit, je pense que c'est pour vous. Ben, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Et il me répond ceci, quand c'est dirigé par le Saint-Esprit, je vous garantis, on est tout petit dans ses souliers. Il me dit, monsieur, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, on vous l'a déjà expliqué. Moi, je prophétise, d'autres interprètent, et je n'ai pas le droit de dire plus que ce que Dieu m'a demandé de dire. Vous pensez bien à 1 Corinthiens 14, quand vous voyez de tels textes, relisez-les. C'est du sérieux, c'est du béton. Et bien sûr, nous sommes retournés dans la voiture avec nos enfants. On était très émotionnés, très touchés, mais pas bouleversés, chavirés. On n'était pas prêts à tomber par terre et avoir des visions, des songes et tout ça. Non, on était profondément touchés dans notre cœur que le Seigneur nous disait qu'on recommençait à le servir ensemble. Quel que soit le milieu où on serait, on le servirait. Et que nous n'en connaissions pas les modalités. C'était complètement inconnu pour nous, il fallait faire totale confiance et prier au soir et lui dire « On marche par tes forces Seigneur, c'est fini, on ne marchera plus par nos forces personnelles, sentimentales, sociales et autres. » Et donc le lendemain matin, après avoir bien dormi, un coup de téléphone à 7 heures, Et comme j'habitais entrepreneur, un de mes anciens clients me téléphone, dit « Jean, moi je suis à l'hôpital, et il y a dans le lit à côté de moi quelqu'un qui a cassé son pied, on va le remettre en psychiatrie, parce qu'il vient d'être plâtré, il s'est jeté du toit de l'hôpital de psychiatrie, de 15 mètres de haut, et il a loupé son cou, il s'est juste cassé le pied. » Parce qu'il a raté le trottoir en courant très vite sur le toit plat de l'hôpital. Il est tombé dans la terre qui était mouillée et il s'est enfoncé comme deux poros, les deux jambes comme deux poros. Il y avait une jambe, un pied cassé. Mais il a dit qu'il va recommencer. Alors, il me dit, j'ai pensé à toi, tu devrais aller le voir. Je l'écoute et je dis, oui, d'accord, Michel, je veux bien. Ce monsieur était athée. N'est-ce pas? Et il n'était au courant de rien du tout de ce qui s'était passé pendant une semaine à cette réunion chrétienne. Et donc, j'ai prié avec mon épouse, Marie-Hélène, je suis allé me mettre à genoux dans la chambre, j'ai dit « Seigneur, je te suis. Si tu viens avec moi, j'y vais. Sans toi, je n'irai pas. » Et j'avais la paix, je suis allé, et je suis arrivé à l'hôpital psychiatrique où cet homme était dans une petite chambre, lié sur le lit avec des grosses sangles, comme des sangles de voiture, de camion, si vous voulez, très solides, 3-4 sangles. Et la porte, il y avait 3 serrures, et les fenêtres, c'était des vitres blindées avec des barreaux. Et pratiquement, je lui ai demandé, est-ce que tu connais Dieu? Il m'a dit, oui, c'est un grand soleil, etc. Il a divagué. Alors j'ai dit, tout ça, c'est des bêtises. Ça n'a rien à voir. Dieu est ton Père, il t'a créé, et tu es né pour l'aimer, l'adorer et le servir. Ah, alors je prends des psaumes, des textes de l'évangile, je les lis, et puis je dis, tu veux bien les répéter avec moi? Oui, je peux prier avec toi? Je prie, il répète, et puis après, je le salue et je le quitte. Je reçois un coup de téléphone. Un jour plus tard, le chef psychiatre de l'hôpital le libérait sans médicament. Juste un tout petit médicament pour 4 fois rien du tout. Et il était libéré des contraintes dans lesquelles il était. 2 jours plus tard, je reçois un coup de téléphone du chef psychiatre de l'hôpital et il me convoque le vendredi matin dans une salle et je toque à la porte, oui, entrez, et il y avait tous les médecins et les infirmières debout et lui assis. J'étais devant un tribunal. Dites-vous bien que je ne savais pas. Je savais que je n'étais plus catholique et je ne savais rien d'autre. J'étais là pour servir le Seigneur. Le Seigneur, le Dieu vivant. Point à la ligne. Et je n'étais pas sûr de mon avenir. Rien n'était défini. Simplement, je devais marcher minute par minute, heure par heure avec le Seigneur, comme on me l'avait demandé. Et le psychiatre en chef se lève debout et puis il hurle et il me traite de salopard évangélique qui venait voler mes patients. Quand j'ai entendu, j'avais compris que j'étais devenu un salopard évangélique. Mes amis, si ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que heureux les affligés, heureux les persécutés, heureux ceux qui souffrent à cause de mon nom, j'ai compris tout de suite. Le diable parlait. Mais moi, je savais où j'en étais. Je n'étais pas avec le diable. Et donc, j'ai reconnu que j'avais commencé le ministère ce jour-là. Je l'ai accepté. Je l'ai accepté et j'ai reçu... J'ai été attaqué au tribunal pour gourou, secte, etc. Je tenais bien mes comptes, j'avais mes diplômes, etc. Tout mon passé, je pouvais le donner aux responsables de la justice et... Ce chef psychiatre a été débouté, il n'a pas pu poursuivre, il a perdu au tribunal. J'ai eu la même chose 2 ans plus tard avec un autre médecin à 130 km de chez moi. Voilà, mes amis, où le Saint-Esprit peut conduire quelqu'un quand il s'empare de la vie. Et je ne suis ni charismatique ni pentecôtiste, mais je ne suis pas fermé aux interventions divines de ce genre, qui font que l'homme n'a plus rien à dire, et c'est Dieu qui décide. Dieu décide. Je n'ai pas eu le don des langues, je n'ai pas eu des dons exceptionnels, et j'avais l'assurance que tout de suite, en faisant l'institut, que simplement dans mon travail, il n'y aurait qu'une petite église, pas de nombreuses personnes, et que c'est plus tard, après, quand je ne serai plus là, dans cette église, que l'œuvre se répandrait. J'ai accepté cela dans mon cœur, avec la paix que le Seigneur peut donner à quelqu'un quand il obéit et quand il l'aime. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que les faux pouvoirs spirituels que l'on essaye de développer dans certaines églises, les faux pouvoirs spirituels, n'ont pas d'importance. Le vrai pouvoir spirituel, c'est Dieu qui l'a. Le vrai pouvoir spirituel est dans les mains de Christ et du Saint-Esprit. J'en témoigne, j'ai été conduit par le Seigneur à cette réunion où je n'avais rien prévu. J'ai été conduit par la parole de plusieurs personnes, la prière, et, s'il vous plaît, la direction divine m'a montré que Dieu était puissant. Cet homme n'a plus jamais essayé de se suicider. Il est sorti de l'hôpital sans médicaments et j'étais traité de salopard évangélique. Donc évidemment, je savais que j'étais évangélique ce jour-là. Mais avant, je ne savais pas ce que c'était qu'un évangélique. Et qu'est-ce que c'est qu'un évangélique? C'est quelqu'un qui vit avec Christ, à sa suite, avec sa parole, dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que je peux vous dire. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de parfait et qui va toujours obéir au Saint-Esprit et à la parole. Non. Mais la puissance de Dieu, l'élection de Dieu sur quelqu'un, est plus forte que la faiblesse de l'homme. La grâce suffit. C'est ce que Paul a dit. Jésus m'a dit, ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que je me glorifierai. Et c'est évidemment la clé du service chrétien, pour tout chrétien, c'est la clé de tout service, de tout ministère pastoral, pour un pasteur, au ministère diaconal, etc. Ou d'évangéliste. Donc ce que je veux dire par rapport à tout cela, c'est que l'expérience de la puissance de Jésus-Christ et du Saint-Esprit nous a été révélée, à ma femme et moi, sans qu'on s'y attende, et sans qu'on l'ait fabriquée par autosuggestion ou qu'on l'ait reçue par des conditionnements externes d'humains. Non, c'est Dieu qui est intervenu. Et donc, il faut faire très attention quand des personnes parlent des langues. Pourquoi? Parce que nous avons logé des personnes ici qui étaient chrétiens pentecôtistes. Une famille avec 5 enfants qui étaient dans la difficulté extrême et nous les avons logés. Et ils lisaient la Bible, le monsieur au moins, avec les enfants, la dame pas. Bien qu'elle se disait chrétienne, elle ne voulait pas se mettre avec son mari et les enfants pour lire la Bible. Et elle évitait toujours cela. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que cet homme était attaché à son église pentecôtiste et donnait la dîme. Il donnait une somme importante, comme l'équivalent 600 euros. Tous les mois. Ils sont restés presque un an chez nous, dans de grandes difficultés, logés. Il y avait, dans toute la maison, nous étions 35. Nous vivions par la foi et ce couple, c'était le seul monsieur qui, avec moi, ramenait de l'argent pour nourrir toute la population qui avait dans la maison, la propriété. Il était courageux, il était chef de chantier dans le bâtiment et il ramenait des magasins Aldi, etc., de Lidl, des courses tous les jours. Et moi, de mon côté, je faisais mon possible. J'étais à l'institut, je travaillais 5-6 heures tous les jours après être rentré de l'institut sur un chantier tout seul. Et je touchais 875 euros par mois et je recevais 500 euros, 450 euros d'un couple chrétien. C'est avec cela que nous avons vécu et ce que achetait ce chrétien pentecôtiste, qui s'appelait Louise, il était portugais, nous vivions à 35. De quoi se faire passer pour des fous, évidemment. Mais nous avions la paix dans cette maison, une grande joie d'être tous ensemble. Et il y avait des temps de prière formidables. Nous marchions avec le Seigneur Jésus ensemble. Nous partagions une condition difficile ensemble. Et pour l'Institut, j'ai vraiment reçu des forces tous les jours. J'ai dormi 3h15 pendant 3 ans. Sauf les week-ends où j'en dormais 6, 6 et demi. Il fallait se relever pour les enfants, etc., qui étaient petits. Donc, la puissance de Dieu, la force de Dieu, j'en ai fait l'expérience dans ma vie, et ma femme, Marie-Hélène aussi. Ce n'est pas nous qui avons inventé cette force, cette espérance, cet amour-là pour les autres. Ce n'est pas nous. C'était quelque chose de plus fort. Et les personnes qui vivaient avec nous le ressentaient bien et en bénéficiaient. Mais ça ne vient pas de nous. C'est la grâce divine. Et ce brave chrétien portugais, Luis, avait entendu le don des langues dans son église. Achabalabalaba, achabalabalaba, achabalabalaba. Et quand il a quitté notre maison, il a décidé de faire une autre église parce que les gens de son église, ni son pasteur, personne n'était venu le voir pendant un an. Donc ils avaient souffert de cet isolement, de cette ingratitude, de cette mésestime. Donc il y a 35 à 40 personnes de cette église qui les ont suivis, qui se réunissaient chez eux. Eh bien, ils ont fait des réunions et ils ont prié comme ils avaient appris. Il y avait des gens qui tombaient par terre, qui se roulaient par terre. La deuxième chose, c'est qu'ils ont trouvé un jeune pasteur qui venait de Bruxelles et qui faisait des chabalabalabala. J'ai averti mon frère et son épouse que cet homme venait pour leur argent et que ce n'était pas Jésus qui était là parce que ce n'était pas le don des langues. Pourquoi ? C'était du simulacre. C'était des singeries, pas plus ni moins. Et derrière cela se cachait un esprit de pouvoir, un esprit pour l'argent et tout le reste, même pour l'impureté. J'ai vu une fois dans cette assemblée où je vous dis que les arbres ont été cassés, où j'entendais prêcher ces deux hommes de manière purement biblique. J'ai entendu trois personnes avoir le don des langues. C'était articulé, autant que le français ou l'allemand ou l'anglais. Et ensuite, quelqu'un d'autre se levait et interprétait. Et ça se faisait dans le calme, tel que c'est écrit dans 1 Corinthiens 14. Les autres années, ça nous est arrivé une fois ou deux encore d'y retourner, il n'y avait plus le don des langues. C'était arrivé une fois comme ça. Ce n'était pas une ritournelle, ce n'était pas un culte, ce n'était pas quelque chose qui revenait pour impressionner les personnes. C'était quelque chose qui était arrivé une fois, peut-être deux, mais pas plus. Et donc ce n'était pas une comédie humaine à allure spirituelle, ou une comédie diabolique à allure évangélique. C'était arrivé une fois ou deux parce que Dieu l'avait voulu, pas plus. Et donc, quand ce frère qui avait été habitué au don des langues dans son église me dit « cet homme a le don des langues et nous avons commencé un culte chez nous avec », je dis « cet homme est un imposteur, il te trompe. Vous finirez tous mal si vous continuez avec lui. » Et je lui raconte que j'ai entendu le don des langues et les interprètes. Et je lui ai pris le texte. Il n'a pas accepté l'autorité de 1 Corinthiens 14. Il a voulu rester dans les opinions qu'il avait reçues dans son église, dans son courant pentecôtiste. C'est pour ça que je vous dis, les faux pouvoirs spirituels existent. Mais c'est l'ennemi qui fait ça. C'est l'ennemi. Maintenant, il y en a d'autres qui ont des visions. De nombreuses visions peuvent être données. Il y en a dans le catholicisme. Avec Bernadette à Lourdes, à Medjugorje, à Dozulé, en Bretagne, etc. À Bourin, en Belgique, à Banneux en Belgique, et un peu partout. Et rappelez-vous ce que Paul avait dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, verset 35, « Ô vous, Éphésiens, dont la fameuse gardienne de la ville est Artémis, et son simulacre d'être tombé du ciel. » Son simulacre d'être tombé du ciel. Cette déesse Artémis, qui dominait sur la ville, et qui était une apparition, une divinité diabolique. C'est tout de même, en 421 et 431, au moment où un empereur a obligé tous les évêques à se réunir dans un bâtiment de l'Empire, avec des soldats, les portes fermées, au moment où il y a eu des bagarres dans le bâtiment, et un évêque est mort de ses blessures, c'est là qu'on a pris toutes les prières d'Artémis, on a barré le nom d'Artémis au-dessus, mais médiatrice, reine du ciel, etc. On a gardé tout ça et on a mis au-dessus Marie, mère de Dieu. Où ai-je étudié tout cela? Au séminaire catholique, en allant dans une bibliothèque. Et vous voyez les visions. Les visions de celle qu'on appelle Marie, dans les régions catholiques, à croire qu'elle n'aime pas les protestants. N'est-ce pas? Ça me paraît bizarre, la maman de Jésus qui n'aime pas les protestants. Eh bien, pratiquement, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces régions catholiques où il n'y a pas la Bible, il n'y a pas l'autorité de la parole de Dieu, et on n'enseigne pas clairement à se limiter à la parole de Dieu, le Satan fait ce qu'il veut. Il peut donner des visions, des apparitions. Et il fallait détruire ce rempart qu'était le protestantisme en donnant des visions, en donnant des langues, en donnant des apparitions d'anges, etc. Donc je vous mets en garde, chers frères et sœurs, que nous sommes dans un combat spirituel extrêmement important au sein de la chrétienté et que le seul bon combat est celui de garder le dépôt de la foi, de la parole de Dieu, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Il est possible que Dieu intervienne, et comme je vous l'ai expliqué dans le cas de ma femme et moi, il intervienne puissamment à certains moments, et que c'est exceptionnel. Mais nous ne pouvons pas en faire une tarte à la crème et dire que tout le monde va avoir ça. D'ailleurs, de toute manière, c'est la première fois que j'en parle sur Internet. J'ai 72 ans, et c'est arrivé à quel âge ? À 40 ans. Pourquoi ? Comme un frère, le pentecôtiste, est venu un jour me trouver, « Mais Jean, tu as une relation particulière, toi, avec Jésus, tu devrais en parler à tout le monde. » Je lui ai dit, « Pierre, je ne veux pas en parler. La relation que le Seigneur m'a donnée avec lui est une relation privilégiée, mais c'est une relation d'amour et de respect que j'ai envers lui. Et je ne suis pas là pour me mettre en valeur et utiliser le nom de Dieu et sa personne pour me mettre en valeur. Je ne suis pas une vedette. Et donc, je n'en parlerai pas. Ce qui m'est arrivé ne regarde que Dieu et moi. Et je dois marcher humblement avec mon Seigneur. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que vous devez savoir que dans le monde évangélique, 3 sur 4 sont des pentecôtistes. Et le monde biblique est peu à peu marginalisé. On les appelle les fondamentalistes, les biblicistes, etc. Et on se moque. On se moque quelque part. On ne peut pas se moquer de Dieu qui a donné la Bible et de ceux qui veulent la garder fidèlement. Et qu'ils veulent la vivre fidèlement. On ne peut pas. Si on se moque et qu'on tend vers des modes qui ont été ajoutés et des choses retranchées, et des choses exceptionnelles, émotionnelles, etc., on ne fait que l'affaire du diable qui veut ruiner la chrétienté et pour que nous ne soyons pas prêts quand Jésus va revenir. Celui qui veut être prêt pour le retour de Jésus doit garder sa Bible, aimer Jésus, aimer Jésus du fond de son cœur, avec conduit par le Saint-Esprit pour l'aimer. Romains 5:5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Aider, dirigé par le Saint-Esprit pour aimer Jésus-Christ, aimer le Père des cieux. Et ça, c'est l'huile dans la lampe. Et il se dégage une lumière, nous connaissons Christ dans notre vie. Nous connaissons Christ et nous savons distinguer ce qui est de Christ et qui ne l'est pas. Et quand Jésus revient, Jésus nous voit, parce qu'il voit en nous ce qu'il est. Il voit sa présence, et de tous les jours, si nous sommes fidèles aujourd'hui, il nous voit. Il sait nous retrouver quand on veut, quand il le voudra. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » » Alors, il faut faire attention. Soyons, vivons humblement dans le Seigneur, soyons la maison du Saint-Esprit, et la vérification que nous sommes dans la maison vraiment du Saint-Esprit, nous suivons Jésus, nous suivons ses paroles, nous aimons la personne de Jésus, nous ne marchons pas devant, faisons pas dire à Jésus des choses qu'il n'a pas dites, et nous vivons comme Jésus, nous voulons vivre, nous voulons être le témoin de Jésus, et nous voulons recevoir de Dieu la couronne, l'approbation, le jour que Jésus va revenir. Donc, il faut faire attention, dans 1 Corinthiens 5, verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, donc l'orgueil, le péché et les mauvais enseignements, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour préciser, vous vous rappelez que quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, le pain qu'ils avaient, c'était du pain azim, sans levain. Et toutes les fêtes de Pâques, pendant 7 jours, même plus parfois, les Juifs mangent du pain sans levain. Pourquoi ? C'est un pain purifié, sans tous les vices, les idoles de l'Égypte, sans toutes les corruptions qu'ils ont connues en Égypte. Il fallait redémarrer à zéro, sans levain. C'est Dieu qui ferait lever son pain lui-même. C'est Dieu qui donnerait le bon pain descendu du ciel. Et donc, nous avons, nous aussi, nous devons être une pâte nouvelle. Et nous ne devons pas avoir du vieux levain qui vient du péché. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et puis après, pour s'expliquer, Paul dit ceci, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger qu'un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Aujourd'hui, mes amis, nous ne sommes pas appelés à la violence, à exercer la méchanceté, la lapidation verbale ou morale. Mais il peut arriver que nous ayons des frères et des sœurs qui ne vivent pas dans la volonté de Dieu. Il faut les avertir. Vous, et même les responsables de l'Église, il faut les avertir. Et s'ils continuent, il faut prendre des mesures. Leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer dans ce sens-là. Leur demander de ne pas venir à l'église un certain temps. Ou en tout cas, de rencontrer le pasteur ou les anciens et de suivre des enseignements spécifiques afin de se repentir. S'ils refusent, nous ne pouvons rien faire. Vous savez très bien, il n'y a pas plus démocratique que Jésus. Nous sommes responsables de la façon dont nous l'écoutons et de la façon dont nous allons mettre en œuvre sa parole. Jésus, il n'y a pas plus grand démocrate, je prends une image évidemment, parce qu'il s'adresse à notre liberté, à notre responsabilité. Et il offre en même temps à quiconque veut avoir une pleine responsabilité, le Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de responsabilité, l'œuvre de sanctification, l'œuvre d'écoute et d'obéissance qui est due à Jésus et à notre Père des cieux. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire attention à la superficialité. La superficialité est un danger énorme dans la foi. Les fréquentations que nous avons auprès d'autres chrétiens, de d'autres dénominations, parfois par amitié, parce qu'ils donnent des versets bibliques, parce qu'ils sont intéressants, ils sont chaleureux. Tout cela ne suffit pas. Cela, ça peut être du domaine sentimental, du domaine relationnel, mais est-ce que nous sommes dans le domaine de la vérité? Jésus a dit à Pilate qu'il était venu pour un royaume de vérité. Et ce n'est pas un royaume comme ce monde. Donc nous, chrétiens, sans être méchants, sans être sectaires, nous devons nous protéger et dire « Nous voulons la vérité. » Jésus est chemin, la vérité et la vie. Nous ne ferons pas de compromis avec les choses qui n'ont pas été dites par Jésus, demandées par Jésus, qui ne correspondent pas à la volonté de notre Père des cieux. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, Matthieu 7, 21. Vous m'avez dit « Seigneur, Seigneur » en jugement. Mais moi, je vous dis « Arrière de moi, je ne vous ai pas connu, car vous avez vécu dans l'iniquité, vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. » L'essentiel de notre vie chrétienne est d'accepter la volonté de notre Père des cieux. Et c'est difficile. Il faut être courageux. Quand je dis il faut éviter la superficialité, je vais ajouter un autre mot. Il faut éviter la lâcheté. La lâcheté. Tout amour a un prix. Reconnaître l'amour de Jésus pour nous à la croix, si nous le reconnaissons vraiment, ça a un prix. C'est de se donner à lui. C'est pas de calculer, c'est pas d'arranger la vérité à notre manière. Si nous ne sommes superficiels et que nous faisons preuve de lâcheté, que nous accommodons les choses et nous les arrangeons comme nous voulons, alors nous tombons dans ce qu'on appelle l'injustice, c'est-à-dire l'absence de sainteté, l'absence d'obéissance. Nous tombons dans l'injustice et dans l'iniquité. Et cela correspond à ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21. Il nous faut donc, comme dit Paul, dans 1 Corinthiens 5, verset 8, « Il ne faut pas en nous un levain de malice et de méchanceté, il nous faut manger du pain sans levain, le pain de la pureté et de la vérité. » Et rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean, chapitre 6, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Donc aujourd'hui, j'ai traité du sujet des langues, j'ai parlé d'une expérience très, très importante qui a touché la vie de Marie-Hélène et de moi-même et de notre famille. C'est pour en revenir à Jésus et à une grande fidélité à Jésus. Ce n'est pas pour que vous attribuiez des honneurs et des gloires à notre couple. Pas du tout. Parce que Jésus nous a empoignés, nous a conduits dans une vie qui n'est pas facile. Elle n'a jamais été facile. Jésus ne nous a jamais promis une vie facile. Et nous avons toujours un chemin à faire avec lui qui n'est pas facile. Mais Jésus est grand, Jésus a pris le gouvernail de notre vie. Et je vous souhaite la même chose. Faites attention, nous reprendrons ce sujet. Recherchez le vrai pouvoir spirituel, c'est-à-dire dans l'humilité et l'obéissance, la direction et la sainteté du Saint-Esprit. La direction et la sainteté de la parole de Dieu. Honneur et gloire à Dieu, s'il a touché votre cœur et que vous êtes attaché à lui, sans réserve, sans regret, sans partage. Honneur et gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu de ce qu'il a fait cela en vous. Si ce n'est pas encore le cas, je rends déjà gloire à Dieu à l'avance de ce qu'il va le faire si vous prenez le temps d'écouter ce que je vous ai dit et de le méditer. Je reprendrai des textes la fois prochaine sur la vraie vie en Christ, la vraie vie dans le Saint-Esprit, de manière à continuer cette réflexion d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit agit aujourd'hui dans le cœur des chrétiens, dans la vie des chrétiens, dans les églises. Il y a de véritables dons qui peuvent être encore donnés aujourd'hui, mais nous ne fabriquons pas des dons parce que le pasteur veut qu'il y ait des dons dans l'église. Nous ne fabriquons pas des dons parce que j'ai envie d'avoir des dons pour être, pour faire le malin, pour briller, pour combler des manques, des frustrations, etc. Pas du tout. La chair n'a pas autorité chez quelqu'un, alors Dieu peut faire certains dons. Quand la chair n'a pas d'autorité, Dieu peut faire certains dons. Et ce n'est pas pour les donner tous les jours, continuellement. Il les donne quand il veut et où il veut. Et l'homme ne dirige pas le ciel. C'est le ciel qui vient dans nos vies, en Jésus-Christ. Amen. À bientôt et évidemment à mercredi à 18h. Priez pour les chrétiens du Pakistan, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, le coronavirus fait des dégâts importants. Pourquoi ? Parce que le gouvernement aurait bien voulu fermer les mosquées, etc. au Pakistan, mais les chefs religieux n'ont pas voulu et le coronavirus s'est répandu à une vitesse folle. Mais le problème, c'est que dans la population du Pakistan, les gens les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui n'ont rien, doivent travailler tous les jours pour se nourrir. Et s'ils ne travaillent pas, ils meurent. Et parmi ceux qui sont les plus pauvres, il y a les très très pauvres, et ce sont les chrétiens. Les chrétiens, les vrais chrétiens au Pakistan sont nombreux, mais ceux-là pour le moment n'ont plus de travail. Le coronavirus est en train de les affamer. Et c'est suite aux échanges que nous avons, 2 à 3 fois par semaine, sur Internet, avec ses frères, que nous voyons leurs souffrances, leurs épreuves. Et pensez que, quand j'ai envoyé 50 euros il y a 2 semaines, pour nourrir les enfants, j'ai vu une multitude d'enfants dans l'église qui chantent des versets, qui prient, qui louent le Seigneur, alors qu'ils ont faim. 50 euros égale 18 700 roupies pakistanaises. À quel point le Pakistan est devenu pauvre et les chrétiens encore plus. Priez pour le Pakistan.
Pourquoi tu colles ta tête à l'écran ?
Priez et surtout, si vous avez des économies, si vous avez de l'argent trop à dépenser, pensez que si j'envoie 50 euros ou 100 euros pour eux, ils sont pas dans le luxe. Ils sont dans la pauvreté. J'ai vu des photos, et je vous les montrerai si vous venez à l'église, des photos de petits-enfants qui font des briques, comme à l'époque des Hébreux, en Égypte, il y a 15 siècles avant Jésus. Ces gens travaillent comme des bêtes, des esclaves, du matin au soir, et ils sont beaucoup moins payés parce qu'ils sont chrétiens. Le peuple de Dieu souffre. Et priez pour ce peuple. Et pensez que nous ici, nous privilégiés, nous devons absolument, absolument être sérieux dans notre foi. Il faut intercéder pour le peuple de Dieu qui souffre. Et il faut pouvoir partager avec eux. Matthieu chapitre 25, verset 35 à 45, j'étais nu, j'étais affamé, j'étais prisonnier. Mais quand avons-nous vu, Seigneur ? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, chers frères et sœurs, c'est bien plus important que le don des langues et que certains dons exceptionnels dont certains raffolent. Le véritable don, c'est l'amour. C'est l'adoration, l'obéissance à Dieu. L'amour de la parole.
Et l'amour en acte.
L'amour en acte. Que Dieu vous bénisse.